que les formateurs de managers qui me disent aujourd'hui il y a une telle compétition que celui qui gagne laisse beaucoup de blessés, quelques morts également, et puis quand il n'y a plus d'adversaires, il est obligé pour entretenir sa force de pouvoir de changer de boîte. Le résultat final, c'est que la boîte où il était, il n'y a que de blessés, de morts, etc. Et donc le résultat est un pur perte, mais au sens négatif du terme.
Christophe André.
Oui. Ce qui est passionnant pour des naïfs comme moi en matière de philosophie, en tout cas, ce terme vertu, évidemment, il n'appartient pas au vocabulaire de la psychologie. On laisse ça aux philosophes ou aux gens de religion. Mais au fond, dans mon imaginaire, avant de lire votre livre, pour moi, la vertu, c'était une espèce de quelque chose d'inaccessible et qui devait être admiré, qu'on montrait un exemple, voilà, aux petits enfants, aux citoyens.
Les vertus héroïques.
Oui, voilà. Et en réalité, quand on lit votre livre, on comprend que c'est pas seulement quelque chose qui doit être admiré, c'est quelque chose qui doit être pratiqué parce que c'est vital aux sociétés humaines. Une société humaine qui négligerait ses petites vertus, ou plutôt ses vertus communes, eh bien c'est une société qui serait une société uniquement basée sur le combat, sur la compétition, et qui serait à court terme invivable et à long terme condamnée.
Tout à fait, c'est une analyse exacte. Je reprends le terme que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les vertus héroïques, il ne faut pas les oublier. Mais je le dirais dans le même sens que Roland Barthes employait pour l'écriture. Il y a des écritures qui sont placées si haut sur les frontons des temples qu'on ne peut plus les lire, mais simplement elles sont là pour rester. Alors évidemment, les vertus héroïques, c'est la même chose, il faut qu'elles soient inscrites quelque part afin qu'elles restent, mais ce sont aussi la mesure de quelque chose de plus simple, de plus petit, disponible à tous, qui est notre quotidien. Il faut, la vertu, c'est en même temps un travail, un plaisir, à mon sens. Un travail parce que il faut les exercer au sens littéral du terme, mais il faut aussi avoir ce détachement qui permet d'en jouir, non pas parce qu'on est, comment dirais-je, narcissique, mais parce qu'on voit de temps en temps le bonheur que les autres ont à ne pas être écrasés, à ne pas être attaqués, à pouvoir partager une parole, à pouvoir partager un ciao, un bonjour, etc.
Marie-Laure Sunshine.
Oui, pour rester sur le vocabulaire, je m'interrogeais sur la distinction, la confusion ou la fusion entre les valeurs et la vertu. La vertu, elle est personnelle, les vertus sont immuables, les valeurs en revanche sont plus collectives, tournées vers la société. La justice est une vertu cardinale et en même temps, on parle de valeurs de justice. Donc on s'y perd un peu aussi dans ces deux notions.
Vous avez tout à fait raison. Je vous remercie. Effectivement, les valeurs semblent être immuables, mais les sociétés changent leur paradigme de valeurs. Et donc, je dirais que ces petites vertus ne font pas appel à un canon, un paradigme, mais à l'autre que nous avons en face. Donc, les vertus sont, si vous voulez, contingentes, mais c'est la plus belle contingence, c'est l'humanité que nous avons autour. Alors que des éléments comme justice, ce sont des éléments qui ont évolué constamment dans la société. Aujourd'hui, on parle de droits imprescriptibles, c'est vrai, mais il y a aussi les pays qui n'ont pas eu accès à nos systèmes philosophiques, une critique à notre universalisme qui serait fait simplement par l'Occident. Vous voyez, tout ça, extrêmement, je dirais pas précaire, mais soumis à une critique constante, alors que nous avons le grand avantage que dès qu'il y a un autre nom, homme ou femme, à côté de nous, il y a une portion d'humanité et ses vertus qui ne peut pas être discutée. C'est un corps qui est là, c'est une histoire qui est là, et pour entretenir un minimum de conversation, il faut avoir ce type de, je dirais, de curiosité personnelle.
Roger Paul Droit.
Alors, je voudrais peut-être revenir sur une fracture tout à fait importante de l'histoire collective des vertus qui affleure dans votre livre. Quand vous parlez de l'urbanité, vous citez Voltaire, vous citez Rousseau et leur opposition. Alors il se trouve, vous l'avez rappelé Ali, que j'ai passé les deux trois dernières années de ma vie en compagnie de ces deux monstres sacrés, mais ils ont chacun, vis-à-vis de la vertu, une opposition qui est encore la nôtre. C'est-à-dire que pour Voltaire, il y a l'idée que les vertus vont de pair avec les progrès collectifs. Le commerce des hommes a tous les sens. La conversation, les salons, mais aussi le commerce des marchandises, la mondialisation. Il est très content, Voltaire, de voir son café arriver de Saint-Domingue, ses porcelaines de Chine, et il investit dans les affaires. Tout cela, pour lui, fait de la vertu collective, sociale, qui, avec la civilisation, nécessairement progresse, l'urbanité, le commerce des hommes. Et il le dit tout à fait bien dans l'article « Vertu » du dictionnaire philosophique. Il dit bah, « j'appellerais vertueux seulement quelqu'un, c'est pas un saint, c'est pas le solitaire qui est sobre et pieux, mais c'est celui qui aura fait quelque acte de vertu dont les autres hommes auront profité. » Donc il y a du collectif progressif dans la vertu. Et c'est ça que Rousseau refuse. Rousseau dit, au contraire, eh bien, tout cela, c'est de l'hypocrisie. La seule vraie vertu, elle est dans la solitude. Elle est quand on écoute la voix de son cœur, qui est la voix de la nature, qui est aussi la voix de Dieu, la voix de la conscience, etc. Et là, je crois qu'il y a une rupture majeure qui s'incarne chez eux, mais qui survit aujourd'hui.
Clara Marliot, Magui, Céline Dubois, Julia Macarez et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Claire Destacan. Belle journée à l'écoute de France Inter.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, love you. Darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Charles Aznavour, formi formidable.
Je ne suis qu'amour.
Grand bien vous fasse.
C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé
à lire EBI.
Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on s'intéresse aux vertus qui peuvent nous rendre heureux en compagnie des philosophes Carlo Ossola et Roger Paul-Droit. Carlo Ossola, je rappelle que vous publiez donc Les Vertus communes. La grande question que pose votre livre, c'est que nous devons tous faire preuve d'un minimum d'éthique dans nos comportements de tous les jours.
Oui, je crois que il y a une vertu qui à la base n'est pas inscrite parce que c'est une espèce de collant ou de comment dirais-je d'élément préalable, c'est la patience. On peut pas exercer les autres sans la patience. La patience signifie en latin la capacité d'assumer, de subir quelquefois également, et je crois que sans cela on peut pas pratiquer les autres. On a entendu Charles Aznavour avec formidable. Eh bien, formidable, c'est un terme que nous employons constamment, mais la racine est formido, c'est-à-dire la peur, quelque chose qui suscite l'admiration et la peur qui va au-delà de nous. Alors il faudrait avoir tous les jours, un peu moins de formidable, un peu plus d'usuel.
Pourquoi est-il si difficile de mettre en pratique ces vertus quotidiennes qui ne forcent pas l'admiration a priori ?
Ben justement parce que nous cherchons dans nos gestes, c'est naturel, un minimum de récompense. Alors, les plus belles vertus sont celles qui ne se posent pas d'abord le besoin de récompense, parce que ça, c'est déjà une manière de s'arrêter sur nous-mêmes. Il faudrait avoir un regard direct avec l'autre, et c'est l'autre qui dicte, pour ainsi dire, notre manière de recevoir. Ce qui est beau dans la culture classique, dans toutes les cultures classiques, c'est que le seuil est plutôt ouvert pour accueillir que pour fermer une porte.
Roger Paul-Droit, pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre en pratique ces petites vertus, ces vertus quotidiennes ?
Eh bien, je ferai à chaque fois des réponses historiques, finalement. Si vous voulez, il me semble que ça n'est pas une difficulté qui est simplement éternelle ou humaine en général et identique à chaque moment de l'histoire. Elle est spécifique aujourd'hui, ou est beaucoup plus aiguë, parce que nous vivons, chacun le sait, je vais dire simplement une banalité, mais dans un temps de l'instrumentalisation. Nous traitons, et nous sommes traités très souvent par les autres comme des choses, et nous les traitons comme des choses, parce qu'il faut aller vite, parce qu'on perd progressivement, pour cause d'instrumentalisation, d'accélération, de chosification, ce sens non seulement de la lenteur, mais du respect des autres, de l'attention aux autres, comme si, finalement, et je crois que c'est ça le difficile et le fondamental, il fallait être attentif à la surprise, à l'inattendu que peut être quelqu'un d'autre, au lieu de s'imaginer qu'on sait déjà, qu'on a tous les contours définis, comme n'importe quel objet.
Roger Paul-Droit parle d'attention. C'est fondamental pour pratiquer ces vertus quotidiennes. Attention à l'autre.
Tout à fait. Et je crois que le complémentaire de l'attention est l'attente. Et il y a, j'aurais voulu mettre ça, l'attente, le besoin d'attendre. Et dans les civilisations anciennes et aujourd'hui encore, dans tous les petits villages, il y a toujours un samovar qui vous attend, qui attend l'hôte, qui attend le pèlerin, qui attend l'étranger. Il faut qu'il y ait toujours un samovar qui attend, donc l'attente de l'autre. Attention et attente, ce sont des éléments vraiment fondamentaux.
Christophe André.
Moi, j'aurais une petite hypothèse par rapport justement à cette question, pourquoi c'est difficile de pratiquer ces petites vertus, sans doute, et ces vertus communes, parce qu'elles sont invisibles. L'être humain, quand même, fonctionne beaucoup par mimétisme. Nous imitons plus volontiers ce que nous voyons, d'où effectivement le rôle de prêter attention aux choses discrètes, mais d'où aussi le rôle des sociétés de mettre en avant ces vertus discrètes, de mettre en avant ces vertus communes, plutôt que de récompenser finalement les plus bruyants, les plus extravertis, les plus agités, les plus aptes à l'autopromotion. Donc je crois que la réhabilitation de ces vertus communes, leur enseignement finalement, leur transmission doit être promue parce qu'au fond, nous imitons ce que nous voyons. Et ce que nous ne voyons pas, eh bien, nous le négligeons.
Marie-Laure Sunshine.
Oui, pour rebondir sur ce que dit Christophe à l'instant, la transmission, on ne naît pas avec ses vertus. Un enfant n'est pas franc, placide, bonhomme, prévenant dans la cour de récréation. Comment se transmettent ces vertus? Comment elles se développent? Comment finalement l'individu, le petit être qui va devenir un adulte, en prend conscience et finalement fait son choix aussi peut-être, guidé ou pas par ses parents sur certaines d'entre elles?
C'est le rôle fondamental de l'école, de l'éducation. Il est regrettable qu'aujourd'hui l'éducation primaire et secondaire ne soit pas au centre vraiment de la du politique et des choix de la vie politique. C'est absolument fondamental. C'est le travail de la civilisation pour améliorer, pour ainsi dire, les données de nature. Je crois que si tout était fait au moment de la naissance, eh ben on passerait à ce niveau d'instinct qui est bien sûr partagé avec les autres animaux, mais le surplus de l'homme est précisément le travail que la civilisation fait sur chacun de nous. Donc le rôle fondamental, me semble-t-il, de l'école reste essentiel.
Bah, sur la question de la civilisation, il me semble que je retrouve ce clivage Rousseau et Voltaire, parce que Voltaire, il dit « la vertu, voyez-vous, suppose des lumières, des réflexions, de la philosophie ». Et la vertu des sauvages que défend Rousseau, c'est-à-dire c'est la vraie vertu, elle serait hors de la civilisation qui n'est que finalement hypocrisie, convention, faux masque. Voltaire lui répond « Leur vertu, celle des sauvages, elle est négative, elle consiste à n'avoir ni bon cuisinier, ni bon musicien, ni luxe ». Et là, on a cette opposition entre une civilisation qui serait bonne, vertueuse et progressive, et puis au contraire, les sauvages qui seraient plus vertueux parce que les civilisés sont hypocrites.
Carlos Sola, j'aimerais qu'on s'intéresse à une première vertu, l'affabilité. Alors selon le Robert, être affable, c'est accueillir et écouter de bonne grâce ceux qui s'adressent à lui. Pourquoi l'affabilité contribue pour vous grandement à toutes les autres vertus ?
Oui, je l'ai mis en tête parce que si on n'est pas capable de parler avec autrui, eh ben il n'y a plus de contexte humain, il n'y a plus de société. Donc l'affabilité, à savoir la capacité de mesurer notre parole sur le visage et l'attention de l'interlocuteur, est absolument fondamentale. Autrement, on parlerait dans le désert, ce qui est tout à fait possible, mais je vois mal ça dans nos sociétés de millions et millions d'habitants qui nous croisent dans nos villes. Et pour ajouter une petite anecdote à ce que vous venez de dire sur la rencontre, ou plutôt la non-rencontre Voltaire-Rousseau, il y a un passage magnifique dans l'autobiographie de Goldoni, qui est un homme de l'affabilité, de la conversation, et qui rend visite à Paris, parce qu'il passe ses dernières années à Paris, à Rousseau, pour connaître ce personnage qui est contre la société, alors que lui, en comédien, était entièrement intégré à la société. Et il dit, je rends visite à ce grand homme et qui est en train de copier, parce que c'est comme ça qu'il vivait, copier musique. Et puis, c'est l'heure de midi, et je vois passer d'une porte à l'autre un poulet, mais qui n'a jamais servi. Alors il dit, c'est comme ça, j'ai compris que je devais partir.
Carlos Sola, vous défendez la discrétion. La discrétion, c'est passer sans se faire remarquer. Et vous écrivez alors que l'affabilité est la première des vertus sociales, et la discrétion, la première des vertus personnelles.
Oui, c'est un ancien... Je dirais principe du monde stoïcien classique, savoir distinguer pour faire un choix honnête. Et donc c'est un exercice constant que nous devons faire sur nous-mêmes. C'est vrai que pendant les siècles, la discrétion a pu s'apparenter avec une certaine manière de se cacher, de se déguiser, mais en prenant ça au pied de la lettre, il s'agit simplement de distinguer pour faire un bon choix, pour mieux exercer notre liberté. Je suis consterné de voir que aujourd'hui, on pense la liberté comme une espèce de cumul de possibilités, alors que notre liberté réelle s'exerce tous les jours sur des choix bien plus simples. Est-ce que je prends le bus ou le RER? Est-ce que je mange du pain ou une galette? Vous voyez, les choix réels sont bien plus limités. Et nous nous payons avec des abstractions des libertés qu'en réalité nous ne sommes pas en mesure de pouvoir exercer.
Comment devenir plus discret dans notre vie quotidienne ?
Bien sûr, renoncer à quelque chose, commencer en renonçant à ce qui n'est pas essentiel.
Renoncer par exemple au tapage des réseaux sociaux ?
Ah oui, volontiers. Ça, me semble-t-il, c'est une mesure de santé, une espèce de précaution pour essayer de vivre paisiblement avec nous-mêmes. Autrement, on est vraiment écrasé par le bruit. Je pense que le silence, je viens de préfacer un livre magnifique de Max Picard, l'un des grands hommes qui fut aimé par Hesse, etc., dont le titre est « Le monde du silence ». Sans silence, nous n'arrivons même pas à percevoir les notes. C'est ce que Barthes disait à propos du piano. On entend les notes parce qu'il y a des intervalles de silence.
La bonhomie, une vertu que vous défendez, pourquoi est-elle la plus fragile des vertus communes ?
Bonhomie, dans les langues néo-latines, dans les langues romanes, est une vertu particulièrement difficile parce qu'on sait très bien qu'on se moque de nous au moment où on est des bonhommes. Mais c'est aussi une manière de se défendre si on ne veut pas entrer dans une compétition qui serait finalement inutile. Donc, il faut agir en sachant qu'on est méprisé, qu'on se moque de nous, mais c'est aussi notre revanche. Regarde combien d'énergie tu dépenses pour te moquer de moi, alors que moi je sais assumer et je passe outre.
La bonhomie, c'est la simplicité dans les manières, unie à la bonté du cœur, nous dit le Robert. Écoutons un extrait du film « Des hommes et des dieux », Frère Luc, un personnage selon vous bonhomme, Frère Luc interprété par Michael Lonsdale.
C'est bien, c'est presque sec. Alors il ne faudra pas remettre de pansement, c'est pas la peine. Et puis, pas la mettre au soleil, surtout pas, ça c'est dangereux.
Défendez-vous.
Voilà, bon, bah moi je suis très content. Hein. Bisous.
Carlos Sola, pour vous, frère Luc, dans le film Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois, c'est l'archétype, l'un des archétypes de la bonhomie. Bon, doux, simple, bienveillant. Et il est médecin dans le...
Tout à fait, il est médecin, il soigne tout le monde, chrétien, non-chrétien, arabe, il donne la priorité à l'homme, et si mes souvenirs sont bons, il arrive même tard au service et aux prières, parce que l'homme précède toujours. Je crois que l'un des sens de ce film, c'est que l'homme précède et les rites suivent.
Allez, il est temps, sur ces belles paroles, de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Chose vue.
Depuis toujours, notre monde est dirigé par les humains dotés des plus gros égos. Se mettre en avant, ne penser qu'à soi, passer devant tout le monde, n'être obsédé que par ses intérêts et sa réussite, parler plus et plus fort que les autres. Voilà les clés du pouvoir, à défaut d'être celles du bonheur. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Mais le progrès aujourd'hui, c'est que tout le monde peut s'y mettre. Ce n'est plus réservé aux puissants. Nos sociétés modernes et démocratiques proposent maintenant à tous les citoyens de devenir eux aussi narcissiques, comme les grands de ce monde. Parce que cela fait vendre et consommer davantage, les pubs et les big data nous incitent à promouvoir notre image et notre singularité. Elles nous encouragent à boursoufler nos égos, parce que nous le valons bien. Elle nous pousse à nous mettre en scène pour être admirés et même enviés de la façon la plus visible et la plus bruyante possible. Zim, boum, boum, le tapage du moi, je a été démultiplié par les réseaux sociaux qui prospèrent sur la promotion des égos. Mais heureusement, nous commençons à prendre la mesure des dégâts. Nous découvrons, selon la formule de Paul Valéry, que le monde ne vaut que par les extrêmes mais ne dure que par les moyens. Nous réalisons que le bal des égos est pittoresque 5 minutes, mais qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Des égoïsmes et des particularismes revendiqués. On n'en peut plus du « moi-je » et du « moi d'abord ». On veut de la fraternité, de la douceur, pardon, de la légèreté, du respect mutuel. Alors, entre en scène les bienveilleuses et les bienveilleurs. Ces personnes qui ne font pas de bruit, mais qui font du bien. Ces humains qui pratiquent dans l'ombre, au sein des familles, des entreprises, des associations, ces vertus communes dont nous parlons aujourd'hui. Discrétion, prévenance, loyauté, gratitude, mesure, constance. Comme tout ça ne fait pas de bruit, on l'oublie. Mais si tout ça n'existait pas, ce serait la cata, comme on dit. Et la vie en société deviendrait impossible, invivable. L'air humain deviendrait irrespirable. Il faut rendre hommage à ces personnes et à leurs vertus discrètes, même si elles ne cherchent pas la lumière, mais le bien commun. Leur rendre hommage de persévérer dans leur rébellion contre un des credos de notre société, l'obsession de la compétition et de l'autopromotion. Leur rendre hommage de promouvoir au contraire l'entraide et la collaboration. Si quelqu'un a du mal à suivre, on cherche à voir, on s'arrête pour l'aider au lieu de l'abandonner. Si quelqu'un fait ou dit des bêtises, on cherche à voir comment le lui montrer sans l'humilier. Quand on est au-dessus, on fait tout pour ne pas faire remarquer ses supériorités. On cultive l'humilité, cette humilité qui ne consiste pas à se rabaisser, mais à ne plus vouloir dominer ou briller. On parle beaucoup aujourd'hui de désobéissance civile, désobéir aux lois qui nous semblent injustes. Les bienveilleuses et les bienveilleurs, justement, désobéissent aux injonctions modernes d'égoïsme et de narcissisme, et s'obstinent à diffuser dans notre grand corps social malade toutes ces molécules anti-égotiques, toutes ces petites vertus, ces vertus communes et parfois dénigrées que sont la gentillesse et le souci du bien d'autrui. Plus nous serons nombreux à leur ressembler, et plus nos vies seront belles. Vous, chère Ali, c'est quoi votre vertu commune préférée ?
Chez les autres, la placidité. Merci beaucoup Christophe André. Alors Roger Paul Droit, chercheur au CNRS, a pris des notes pendant votre chronique. Je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas. Roger Paul Droit.
Ben, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gentillesse dans tout ça. Et quitte à mettre un peu d'acide, je pensais à Nietzsche, je pensais à Freud, je pensais à Mandeville, je pensais à tous ces gens qui, finalement, ont mis depuis bien longtemps, Freud aussi, l'accent sur les ambivalences et sur le fait que derrière tous ces bons sentiments, toute cette bien-pensance, il y a peut-être d'autres choses qu'il faudrait aller gratter.
Réponse de Christophe André.
Oui, alors ça c'est un débat, je ne sais pas s'il y a lieu de l'ouvrir ici. Freud, pour nous, ne fait plus référence en psychologie. Donc,
en psychiatrie.
Oui, en psychologie et en psychiatrie. Et donc, effectivement, la tendance qu'il y a eu pendant longtemps à se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière la gentillesse? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'écoute? Est-ce qu'il n'y a pas un désir d'être reconnu? Est-ce qu'il n'y a pas un refoulement de la méchanceté? C'est très contesté aujourd'hui, mais bon, voilà, l'heure n'est pas au débat.
Alors Nietzsche, si vous préférez.
Restons urbains. Take my love and send it into space. Twist the knife into my back and run. Charlotte, you're in love with me. Charlotte, nothing left to see. If there's nothing left of us. Slump, interprété comme And Get It.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et cet après-midi, on s'intéresse aux vertus qui peuvent nous rendre heureux en compagnie des philosophes Carlo Ossola et Roger Paul-Droit. Vous vouliez réagir, Carlo Ossola, à la petite joute, juste avant le disque, entre Roger Paul-Droit et Christophe André.
Oui, justement avec la placidité. Et pour une raison qui me semble importante. Et si nous prenons l'exergue de l'interprétation des rêves, Freud a dit « si je ne peux pas plier les dieux d'Anon, acheronta movebo, j'irai solliciter les enfers ». Alors précisément, c'est ça qui me semble préoccupant. Hein. Nous allons de plus en plus solliciter les enfers. Et Roger Caillois disait à un moment dans l'un de ses livres « À jouer au fantôme, on le devient ». Donc, je pense que la placidité, entre autres, est ce « je sais qu'il y a les enfers, je sais que je pourrais faire une belle descente aux enfers, mais et peut-être qu'il vaut mieux s'abstenir voilà. ».
Écoutons un personnage placide dans le film « Mes meilleurs copains ».
Et à pied ? Je suis rentré en car parce que j'ai eu une galère avec le bahut.
Nouveau Mercedes ?
J'ai voulu prendre un couple de stoppeurs pour m'empêcher de roupiller. Deux blacks qui allaient au sable d'Olonne, tu vois. Alors j'ai voulu prendre un casse-dalle, tu vois.
Ah oui, bien sûr, t'es descendu, t'as laissé les clés sur le camion.
Je pouvais pas prévoir que ça serait de flipper. Hein. Ils ont démarré aussi sec.
Avec le chargement aussi. T'étais déjà rentré, toi ?
Ah oui, j'étais super vite parce que j'ai eu un petit problème.
Grave ?
Grave, non. On kiki, non ?
Ah bon, bah tu m'expliqueras ça tout à l'heure. Je vais prendre une douche et dormir une demi-heure.
C'est quoi grave pour toi ? Bah quoi, y a pas mort d'homme.
Carlo Ossola, pourquoi célébrer la placidité incarnée dans cet extrait par Jean-Pierre Darroussin dans Mes meilleurs copains ? Placide, qui est doux et calme. Le placide se place au-dessus des ambitions, des rivalités, des emportements.
Oui, c'est comme la humeur calme. Ça signifie pas qu'il n'y ait pas des vagues, même des tempêtes, mais il faut essayer toujours de retrouver l'équilibre. Alors évidemment, la placidité va avec la mesure, et je dirais c'est une espèce de résultat final, c'est pas un don de nature, on revient à la question de la formation, de la civilisation, du contrôle de soi, etc. C'est plutôt un but, et ce qui signifie que le contrôle de soi est important, non pas pour entièrement se maîtriser, il y aura toujours quelque chose qui échappe, mais pour savoir que l'équilibre est le résultat final du passage des eaux entre des lieux communicants, et les lieux communicants, ce sont les autres. Donc, je dirais que d'une certaine manière, c'est un résultat collectif.
Une belle vertu commune, une belle vertu quotidienne, Carlo Ossola, l'urbanité. Le Larousse nous dit, peut-être un peu trop vite, que l'urbanité, c'est la politesse raffinée. Mais encore, Carlo Ossola, c'est quoi exactement l'urbanité ?
Ah ben là, le Larousse prend des engagements très importants. Moi, je dirais simplement que c'est la vertu d'être en ville, urbain, d'habiter la même ville et donc d'avoir des obligations communes qui viennent du fait qu'on partage le lieu commun, l'espace. Et il faut prendre l'image d'Aristote au sens le plus littéral. La ville est le lieu par excellence, le lieu commun, l'espace commun, et donc être urbain est savoir partager cet espace commun, c'est-à-dire comme on faisait autrefois, moi, quand j'étais gamin, on faisait trois niveaux d'éducation. À l'école, c'était l'éducation personnelle, et puis deuxième, l'éducation dans la rue, à savoir comment donner justement la priorité, comment saluer les autres, comment passer à travers les carrefours, etc.
Vous posez cette question, sans urbanité, comment pourrions-nous supporter l'arrogante insolence qui nous assaille de toutes parts ?
Oui, oui, là c'est simplement un constat, on n'a pas besoin d'aller plus loin.
Christophe André.
Oui, par rapport à cette urbanité, il y a un exercice qu'on recommande souvent à nos patients de faire dans le cadre de la psychologie positive. Alors désolé, Roger Paul-Droit, n'écoutez pas. On leur dit par exemple, faites le test, lorsque vous êtes au volant de votre voiture, de toujours vous arrêter quand un piéton est au passage clouté pour traverser. Faites-lui un sourire et faites-lui un signe. Et
regardez la tête du piéton, qui est d'abord surpris et qui remercie, mais surtout, regardez dans quel état ça vous met. Est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce que ça vous fait du mal? Parce que ça, c'est quand même aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans la pratique des comportements vertueux, c'est qu'ils font du bien à la personne qui les pratique, du bien émotionnel. Quand on est en harmonie avec les autres, on se sent bien. Quand on est en conflit, on se sent moins bien. Et pour nous, les médecins, ça veut dire aussi quelque chose sur la nécessité de ces vertus dans l'espèce humaine.
Brave Geppetto, toute ta vie tu as fait tant de bien autour de toi. Tu mérites que ton vœu soit exaucé.
Oh, je peux remuer ? Parler aussi ? Je peux marcher ?
Oui, Pinocchio. Oui, je t'ai donné la vie.
Pourquoi ?
Parce que ce soir, Geppetto a souhaité avoir un véritable garçon.
Et maintenant, je suis véritable ?
Non, Pinocchio. La réalisation du vœu de Geppetto va dépendre entièrement de toi.
Dépendre de moi ?
Prouve-moi que tu es brave, toujours franc, loyal et obéissant, et un jour tu pourras devenir un vrai petit garçon.
Un garçon comme les autres ?
Ce ne sera pas facile.
Tu devras choisir entre la route droite et la mauvaise.
La droite et la mauvaise ? Mais comment je saurai ?
Comment sauras-tu ?
Ta conscience te le dira.
Conscience, qu'est-ce que c'est ?
Oh oh !
Musique, maestro!
Mon gentil petit pantin de bois apporte la joie.
Carlo Sola, pourquoi le personnage de Geppetto dans Pinocchio incarne-t-il pour vous la générosité? Plus globalement, Geppetto concentre pour vous nombre des vertus que nous évoquons ce matin. Expliquez-nous.
Oui, d'abord parce qu'il est facile de donner quand on a beaucoup d'argent, alors qu'il est pauvre. Et il donne tout ce qu'il a, c'est-à-dire une miette de pain et puis son veston pour acheter le petit abécédaire pour Pinocchio. Donc, la générosité n'est pas la vertu des riches, c'est la vertu fondamentale de savoir aller tellement au-delà de soi-même, de se priver de ce qui nous semblerait fondamental. Et surtout, ceci est exercé sur une marionnette de bois qui deviendra petit à petit son enfant, un enfant qui n'est pas du tout vertueux et donc qui demande beaucoup de patience. Alors c'est pourquoi, me semble-t-il, il y a là vraiment le grand résumé de ces vertus.
Question de Marie-Laure Sunshine.
Oui, sur toutes ces vertus, je m'interrogeais en vous écoutant, finalement, quelles sont celles qu'on peut véritablement mettre en œuvre. Enfin, il y a quand même, on parlait de la bonhomie, de l'urbanité, alors on est parisien autour de cette table, monsieur, vous êtes italien, peut-être romain, je ne sais pas, mais alors, l'urbanité à Rome, j'ai jamais vu, à Paris encore moins. Quelles sont celles, finalement, qu'on peut s'approprier là, maintenant ?
Moi, je dirais, pour être vraiment simple, le silence.
À la radio, ça va être compliqué.
du fait que cela permet de mieux écouter. Je vous fais un exemple. Quand je suis arrivé au Collège de France, l'un des maîtres m'a dit, écoute, la première année, tu essayes de comprendre. La deuxième année, tu comprends et donc tu commences à remercier. Et la troisième année, tu prendras la parole. Il n'y a plus aucune institution capable de d'enseigner cela. Vous comprenez? C'est ça un peu, je dirais, l'enjeu, pas obligatoirement de se taire constamment, mais de savoir que le silence est une partie de la compréhension et que nous avons tout le temps pour nous exprimer. Quand on prend ces grandes civilisations orientales, celui qui a le plus de pouvoir s'exprime tard, le dernier et avec peu de mots.
Pour terminer, une dernière vertu, Carlo Ossola, la gratitude. Je cite Proust, « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. » Et pour Cioran, la gratitude est non seulement la plus grande vertu, mais c'est également la mère de toutes les autres.
Bah, défendre. Il faut s'arrêter et répéter chaque jour ce passage merveilleux.
Une vertu encore, peut-être, la constance. Oui. Vous aimez la constance de la roue du potier, le tour que font les mulets autour de la meule, le balancement des bras qui fauchent l'herbe. Pourquoi cet amour pour la constance ?
Ben, je crois que c'est en même temps le...
Dans une époque très inconstante,
oui,
et très liquide.
Le préalable de la mesure. Et je me rappelle toujours le poète italien Giovanni Giudici qui a écrit un vers magnifique, « Tu sais pourquoi il faut résister ?» Alors, comme je devais faire le commentaire de ce poème, je lui téléphone, je dis, Giovanni, mais moi, je ne sais pas pour quelle raison, qu'est-ce que je dois mettre en bas de note. Il me dit, tu es vraiment quelqu'un qui ne comprend pas mes poèmes. Tu sais pourquoi il faut résister, c'est un absolu. S'il y avait une raison, c'était déjà de l'économie, de l'échange. Voilà, donc je crois on peut vraiment dire... Tu sais pourquoi il faut résister, donc une constance, je dirais, sans objet.
Merci infiniment, Carlo Ossola. Je recommande vraiment votre livre « Les vertus communes » publié aux belles lettres. Merci également, Roger Paul Droit. Lundi, on s'intéresse à ce lien vital qu'est l'attachement.